quatrième temps de notre série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire en nouvelle écoute. Aujourd'hui, un débat autour de la cartographie au Moyen-Âge, déjà diffusé dans la Fabrique le 14 avril 2016. Lundi, vous avez suivi les recherches autour de Nithard, considéré comme le premier auteur de langue française. Mardi, vous avez, dans le documentaire d'Anaïs Quien et Françoise Camard, vécu la chute de Constantinople. Et hier, nous avons abordé les enquêtes que les rois de France déclenchaient pour mieux connaître leur sujet et leur territoire. Et bien aujourd'hui, nous vous proposons de réfléchir à la mesure du monde telle que l'imaginaient les penseurs du Moyen-Âge. Quelle cartographie avaient en tête les savants du XIIe ou du XIIIe siècle? Quelles étaient leurs représentations du monde? Car contrairement à ce que l'on a souvent affirmé, au Moyen-Âge, on ne pensait pas forcément que la Terre était plate. C'est ce que nous verrons en compagnie de Victor Massé de l'Épinay de la Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Vagnon-Chureau et Jean-Charles Ducène. Bonjour Victor Massé de l'Épinay.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour à vous Jean-Charles Ducène depuis Bruxelles.
Bonjour messieurs.
Et bonjour à vous Emmanuel Vagnon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors peut-être commencer par le plus simple, c'est-à-dire essayer de se poser la question de la façon dont peut-être au Moyen-Âge, dit-on, c'est-à-dire au 7e siècle par exemple, quand Isidore de Séville se lance dans ses étymologies, eh bien on a une vision européenne, enfin européenne, on n'est pas encore européen, mais une vision donc dans cette presqu'île qu'est le continent européen occidental, donc de la Terre. Que sait-on de la Terre? Comment la connaît-on? Et comment un érudit comme Isidore de Séville la rend-il d'une certaine façon, Emmanuel Vagnon?
Isidore de Séville, dans ses étymologies, ne parle pas que de géographie. C'est une encyclopédie qui réunit le savoir de l'Antiquité tardive. Et parmi ces savoirs, il y a des savoirs sur la Terre, sur le monde, le cosmos, et puis des savoirs sur la partie habitée de la Terre qu'on appelle l'œcumène. Donc Isidore expose à la fois des conceptions générales héritées de l'Antiquité tardive, de manuels pédagogiques sur la sphère terrestre, divisée en zones, des zones froides vers les pôles, des zones tempérées et une zone équatoriale brûlante, torride. Et puis dans d'autres parties, il expose ce qu'on savait de l'œcumène, qui était, c'est-à-dire l'espace habité par les hommes, et qui était limité à ce qu'on connaissait pendant l'Empire romain, c'est-à-dire le nord de l'Afrique, une partie de l'Asie et l'Europe.
Et donc ce savoir est un savoir qui est hérité, pourrait-on dire, de ces géographes donc cartographes de l'Antiquité classique ou l'Antiquité tardive?
En effet, c'est une géographie qui est héritée d'un savoir scolaire du monde romain, de l'Empire romain. Alors une partie du savoir théorique grec avait été édulcorée ou perdue en partie. Et ce qu'il en restait dans le monde latin était des connaissances assez générales et qui étaient extrêmement résumées. Mais on connaissait le nom d'Ératosthène et on savait que les Grecs avaient des connaissances géographiques et cosmographiques très étendues.
Et donc, dans cette étymologie qui est donc comme une entrée d'encyclopédie ou une entrée de dictionnaire, j'imagine qu'on peut lister, quand on est historienne comme vous de la cartographie et de la géographie, on peut lister justement les entrées pour voir à peu près quelles étaient les connaissances précises ou moins précises de quelqu'un comme Isidore de Séville et de ses érudits du 7e siècle autour de la connaissance de cette œcumène, comme vous voulez de le dire, Emmanuel Vagnon.
Alors, en effet, les spécialistes d'Isidore de Séville retrouvent ses sources, hein, parviennent à déterminer quelles ont été ses sources pour composer cette espèce de dictionnaire. Et le livre 14 des étymologies est plus particulièrement consacré à la description de la Terre, en décrivant tour à tour les régions, les fleuves, les particularités physiques de la Terre et les habitats, les peuples.
Alors, il y a, par exemple, et vous avez travaillé sur cette question, des questions autour d'un mot ou d'un lieu. Est-ce un lieu, d'ailleurs, ou est-ce un concept? C'est ce que vous tentez de déterminer dans un article, Emmanuel Vagnon. L'Éthiopie, parce que, par exemple, l'Éthiopie, c'est à la fois un lieu géographique, mais c'est aussi un concept plus vaste. Et peut-être ça nous permet d'entrer, justement, dans cette façon de faire de la cartographie ou de la géographie qui est très différente de la nôtre, a priori, comme cela, Emmanuel Vagnon, dans le haut Moyen-Âge.
En effet, alors l'Éthiopie est un exemple intéressant parce que ce sont des territoires qu'on ne connaît pas très bien en Europe. On en a entendu parler, on sait que théoriquement il existe des espaces africains et indiens qu'on peut qualifier d'éthiopiens et qui sont caractérisés surtout par leur position, latitude sur la sphère terrestre. Donc les Éthiopiens sont des peuples qui vivent sous des latitudes tropicales.
Comme les Indiens d'ailleurs, à peu près au même niveau.
Et qui sont de même nature effectivement que les peuples indiens. D'ailleurs, ils sont noirs parce qu'ils vivent sous les mêmes latitudes.
Ils vivent tout près du soleil.
Et que leurs caractéristiques climatiques leur donnent des caractéristiques physiques à peu près comparables. Donc en effet, l'Éthiopie et l'Inde sont très souvent associées dans l'Antiquité, dans la géographie antique et aussi dans la géographie médiévale. Puis peu à peu, on détermine une Éthiopie qui serait une Éthiopie géographique en Afrique qui correspond de plus en plus à l'Éthiopie que nous connaissons au cours du Moyen-Âge.
Et ça, on avancera un peu avec vous plus loin dans le Moyen-Âge. Victor Massé de l'Épinay.
Oui, Emmanuel Vagnon, avant d'avancer justement dans ce Moyen-Âge et d'aller, on va brosser un tableau jusqu'au 15e siècle, je voudrais tout de suite lever un doute. Quand on pense au Moyen-Âge, l'idée reçue commune, c'est qu'on pensait à cette époque que la Terre était plate. Or, vous venez de dire qu'Isidore de Séville parlait de la sphère terrestre. Dans tout ce que j'ai pu lire de vous, j'ai l'impression que tout le monde a toujours su que la Terre était une boule. Est-ce qu'un jour, on a cru que la Terre était plate ou pas?
Alors, en effet, c'est un débat historiographique très important parce que c'est un mythe de l'époque moderne qui s'est construit sur le Moyen-Âge obscurantiste, théologique, qui avait des idées fausses sur la sphère terrestre et qu'aurait combattu les modernes, Copernic, Galilée. Or, c'est faux. Hein. Ce qu'ont démontré Copernic et Galilée, c'est que la Terre tourne autour du Soleil, et non l'inverse. Mais sur la sphéricité de la Terre, il y avait un consensus et à peu près tous les textes explique très clairement que la Terre est une boule, une sphère, même dans les ouvrages en langue vernaculaire, c'est-à-dire en langue parlée par la plupart des gens, on explique que la Terre est une boule. Donc le mythe de la Terre plate est une construction à partir de quelques textes assez rares qui réfutent l'idée que la Terre est une sphère terrestre parce que c'était une conception païenne de la géographie.
Donc il faut enlever de sa tête cette idée que les médiévaux, enfin les personnes qui vivaient à l'époque médiévale, que ce soit au 7e ou au 15e siècle ou au 14e siècle, pensent que la Terre est plate, Emmanuel Vagnon.
Oui, la grande majorité des savants du Moyen-Âge, depuis le 5e siècle et jusqu'à évidemment le 15e siècle, expliquent que la Terre est une sphère.
Victor.
En revanche, il y a une autre connaissance avec laquelle il faut articuler les savoirs géographiques, c'est la connaissance théologique, la connaissance des textes bibliques, en l'occurrence pour l'Occident. Et là, est-ce qu'il y a des choses qui vont en contradiction? Est-ce que, avec un savoir géographique et scientifique, est-ce qu'on pense que la Terre est une boule, certes, mais le fait de savoir qu'il y a des gens très loin de chez nous, on se dit, tiens, mais comment est-ce qu'ils peuvent descendre d'Adam et être aussi loin de nous? Alors ça, comment est-ce que ça s'est articulé la foi et les connaissances bibliques avec la découverte progressive et scientifique du monde?
Alors, ce qui est intéressant dans l'étude de ces textes géographiques du Moyen-Âge, c'est qu'ils se présentent sous forme d'hypothèses ou de questions. Ils n'affirment pas, ils ne sont pas dogmatiques précisément. Et les sources de la connaissance sont les savoirs géographiques antiques païens et aussi la Bible. Et le grand effort des savants, c'est de concilier les deux et de poser des questions. Des questions qui peuvent prendre la forme de débats universitaires sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. La question des antipodes fait partie de ces grandes questions de la géographie médiévale, puisque la géographie antique présupposait qu'il existait des terres dans les autres hémisphères, plus exactement dans l'hémisphère sud par rapport à nous, mais aussi de l'autre côté de la Terre, vers l'ouest ou vers l'est. Et donc il était possible qu'il y ait des terres dans les zones tempérées de la sphère terrestre. Mais d'autres savants ont réfuté cette idée à cause du fait que, dans la Bible, les hommes, toutes les populations humaines, descendent d'Adam. Et que donc la révélation aussi du Christ a dû être étendue à des peuples dans l'œcumène, c'est-à-dire les trois parties connues du monde. Et il existait peut-être des terres ailleurs sur la sphère terrestre, mais si elles étaient habitées par des hommes, comment auraient-ils pu être touchés par la révélation ou comment auraient-ils pu descendre d'Adam? Et ces questions n'ont pas trouvé de solution unique, c'est-à-dire qu'il y a eu des débats. Donc certains ont pris position pour, d'autres contre.
Alors Jean-Charles Dussène, vous êtes avec nous depuis Bruxelles, je l'ai dit. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études et vous êtes un spécialiste de la géographie du Moyen-Âge arabe. Alors puisqu'on a commencé avec Isidore de Séville, c'est-à-dire 7e siècle, et est-ce qu'on peut imaginer ce qu'est la connaissance des conquérants de une bonne partie de la Méditerranée à ce moment-là et la vision qu'ils ont aussi du monde et de la carte aux alentours du 7e, 8e ou 9e siècle, donc au tout début de cette conquête arabe, Jean-Charles Dusen.
Pour le 7e siècle, les choses sont plus délicates car nous n'avons quasiment aucun texte hormis le Coran et les textes ultérieurs qui nous parlent des conquêtes. Dans le Coran, il n'y a pas réellement de notion cosmographique ou géographique, si ce n'est qu'un verset dit que Dieu a étendu la terre. Mais évidemment, par la suite, il a été difficile pour les exégètes de tirer des arguments géographiques de ce verset. En revanche, au 7e siècle, il existe déjà au Proche-Orient des textes syriaques qui sont, eux, influencés, qui ont hérité des connaissances hellénistiques. Et ces textes syriaques, manifestement, sont lus. Et on voit bien qu'il y a une connaissance géographique générale, mathématique, qui est présente au Proche-Orient et qui va réapparaître par la suite, à partir du moment où nous avons des textes arabes plus conceptuels, à partir du milieu du 9e siècle, aux alentours des années 850. Où là, apparaît deux choses. Tout d'abord, une description un peu scolaire, un peu littéraire, si on veut, de l'écumène divisée en trois parties ou en quatre parties. Quand il s'agit de la division en trois parties, on a l'Europe, l'Asie, la Libye, comprenons l'Afrique. Et quand c'est une division en quatre parties, on a l'Europe, la City, le territoire des Scythes, mais comprenons l'Asie, puis la Libye et l'Éthiopie, recouvrant l'Éthiopie, je dirais, moderne, ainsi que l'océan Indien. Mais à côté de cette vision un peu littéraire, ou qui est héritée mais pas vraiment assumée, on a une influence qui est flagrante à partir des années 833-840 de la géographie de Ptolémée, qui manifestement, par le truchement d'une version syriaque, est réapparue à Bagdad au moment du mouvement des grandes traductions du grec, du syriaque vers l'arabe.
Oui, alors ça c'est donc au milieu du 9e siècle, Ptolémée est donc redécouvert. Rappelons que Claude Ptolémée est ce géographe alexandrin du 2e siècle après Jésus-Christ, qui donc est redécouvert à ce moment-là, traduit, adapté, et vous avez travaillé sur par exemple un géographe et cartographe qui s'appelle Al-Khwarizmi, je crois c'est comme ça qu'on prononce, et qui donc adapte Ptolémée et s'adapte, pourrait-on dire, tente d'adapter cette géographie ptoléméenne à l'espace connu des conquérants arabes, c'est cela ?
Tout à fait. Al-Khwarizmi, qui était mathématicien, astronome, a participé à cette aventure, à cet ordre que le calife Al-Ma'mun avait donné de réaliser une carte du monde, une map-monde, et on en a gardé un relevé, entre guillemets, des coordonnées en longitude et latitude, et d'ailleurs le manuscrit unique de cet ouvrage est conservé à Strasbourg. Et lorsqu'on reconstitue la carte que Al-Khwarizmi a eue sous les yeux, ou bien a commencé à réaliser lui-même, on se rend compte qu'il a adapté Ptolémée, qu'il a corrigé Ptolémée pour les territoires qui étaient alors mieux connus. Par exemple, Ptolémée avait donné 60 degrés de longueur à la Méditerranée, Al-Khwarizmi lui donne 50 degrés. Ptolémée avait fermé l'océan Indien pour en faire en quelque sorte un lac, une mer fermée. Al-Khwarizmi savait par les navigateurs arabo-musulmans qui allaient jusque l'Inde, voire plus loin jusque Canton, qu'il y avait peut-être autre chose vers l'Est, et donc la carte de l'océan Indien est ouverte chez Ptolémée.
De même,
De même, la mer d'Aral était inconnue des anciens, peut-être qu'elle n'existait pas d'ailleurs. Chez Al-Khwarizmi, la mer d'Aral apparaît.
Une question de Victor Massé de l'Épinay.
Oui, Jean-Charles Dusen, Al-Khwarizmi dont vous parlez adapte Ptolémée au monde moderne et plus connu. Il faut bien essayer est-ce que vous pouvez nous faire comprendre comment il fait ça, il adapte cette cartographie scientifique et mathématique, mais à partir de récits de voyage quand même, à partir d'endroits où il ne va pas, il a des informateurs qui lui rapportent des récits, et ils doivent à la fois les transposer d'une façon mathématique et en même temps adapter quelque chose qui est plutôt de l'ordre du récit littéraire.
Effectivement, on peut remarquer que les territoires qui sont éloignés de la Méditerranée sont mal connus et chez Al-Khwarizmi, on assiste simplement à une transcription de Ptolémée. En revanche, en 850, les auteurs, les astronomes savent très bien prendre les latitudes et ils savent plus ou moins convertir les distances routières pour aboutir à des longitudes. Et à partir de ces coordonnées, autour de la Méditerranée et dans les territoires musulmans, Al-Khwarizmi parvient à situer les nouvelles villes, les villes de création musulmane, si vous voulez, ou les villes médiévales, et à l'aide d'informations reçues par les services de l'Empire musulman, donc la poste qui fonctionne relativement bien à Bagdad, il peut mettre à jour cette information simplement toponymique. Mais remarquez que pour les territoires européens, par exemple, chez Al-Khwarizmi, apparaissent déjà de nouveaux ethnonymes, de nouveaux noms de peuples qui témoignent de l'évolution historique de l'Europe. Apparaît ainsi le nom des Rousses, des Russes, mais comprenons des Vikings, nous sommes là au milieu du IXe siècle, de même que le nom des Bourjans, mais qui désigne en réalité les Bulgares de la Volga, qui effectivement sont établis au nord du Danube. Donc il y a une mise à jour avec les informations que la chancellerie, si vous voulez, pouvait récupérer à Bagdad.
Alors tout de même, on peut dire, Emmanuel Vagnon, que à ce moment-là, en tous les cas, au 9e, 10e siècle, et même un peu plus tard, les géographes et cartographes arabes ont une longueur d'avance par rapport aux géographes et cartographes occidentaux, parce qu'ils n'ont pas encore récupérer la connaissance exacte de Ptolémée. Je crois savoir que, effectivement, pendant toute cette longue durée du Moyen-Âge, ça n'est qu'à la toute fin que Ptolémée sera redécouvert et donc, d'une certaine façon, que tout le travail qu'il a pu faire de cartographie du monde antique, eh bien, est largement inconnu des érudits médiévaux occidentaux, Emmanuel Vagnon.
En effet, la redécouverte de Ptolémée au début du XVe siècle a été un événement extrêmement important pour l'histoire de la cartographie. Néanmoins, il ne faut pas croire qu'il ne s'est rien passé jusqu'au XVe siècle. Et les travaux des historiens de la cartographie actuelle, notamment de Patrick Gauthier-Delcher, ont montré que la géographie de Ptolémée n'était pas complètement inconnue en Occident, qu'on en avait entendu parler, qu'on en connaissait certains passages et qu'elle était attendue. C'était un manuscrit qu'on cherchait à se procurer à partir du XIVe siècle.
Parce qu'il y a une dimension stratégique aussi à la connaissance et reconnaissance de la Terre. Ce sont des routes de commerce, ce sont peut-être aussi des routes de conquête. Et donc, comme plus tard, au moment de ce qu'on a appelé les grandes découvertes, on sert dans des endroits extrêmement secrets les quelques cartes que l'on possède, j'imagine, Emmanuel Vagnon.
Là aussi, c'est un grand mythe de la modernité, de dire que ces cartes étaient cachées, conservées, à l'abri.
Elles l'étaient pendant secrètes. L'époque moderne, en tous les cas. Pendant l'époque moderne, elles l'étaient par les grandes compagnies en particulier.
Oui, moins qu'on ne le croit, elles ont beaucoup circulé, peut-être sous le manteau, mais elles ont quand même circulé. Et au Moyen-Âge, donc avant le XVe siècle, il y a eu des développements géographiques très importants et les maps-mondes ont été améliorés. Les connaissances géographiques venant des voyageurs, je parle simplement de Marco Polo, par exemple, ont énormément fait avancer la géographie médiévale avant Ptolémée.
Qui lui-même avait repris certaines des connaissances des géographes arabes. D'ailleurs, Marco Polo, j'ai cru comprendre en lisant Jean-Charles Dussène que la connaissance d'une ville comme Mogadiscio était passée chez Marco Polo par la connaissance des géographes arabes.
Alors, au cours de ses voyages, Marco Polo a rencontré des voyageurs du monde arabe, a fréquenté des voyageurs du monde arabe qui ont alimenté son récit. Mais même à Venise même, on avait beaucoup d'informations. Le monde européen n'était pas isolé, il était en contact aussi avec les pays arabes, et puis ensuite avec le grand espace mongol. Et ces connaissances ont enrichi la géographie médiévale, et ce qui s'est développé sous des formes très différentes de la géographie de Ptolémée ou de la géographie arabe, mais elle s'est développée.
Ce qui est intéressant quand on vous lit Emmanuel Vagnon et Jean-Charles Dussène aussi, c'est qu'il faut faire un saut d'une certaine façon épistémologique nous-mêmes pour apprécier les cartes du Moyen-Âge. Parce que on a tendance à croire qu'une carte aujourd'hui, on a tendance à croire que c'est autosuffisant, que c'est géographiquement ou scientifiquement exact, que ça se regarde tout seul. Or, à l'époque, une carte, ça se regarde dans un contexte géographique, dans un contexte littéraire, c'est toujours accompagné de textes et c'est toujours destiné à un usage, et cet usage est aussi quelquefois plus important que la rigueur scientifique. Il faut que ce soit utilisable par les marchands, par les voyageurs, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment la carte s'articule avec les textes, avec les autres sources, avec tout un ensemble de savoirs, et n'est pas quelque chose qui est isolable en fait au Moyen-Âge?
Alors il faut bien comprendre que la carte qu'on emporte avec soi en voyage n'existe pas, ou si elle a existé, on l'a perdue. Donc tous les documents qu'on a conservés du Moyen-Âge sont des documents littéraires ou des documents d'archives. C'est le cas à la fois pour des documents qui commentent des œuvres littéraires, qui sont donc des cartes qui commentent des œuvres et qui essayent de placer des toponymes sur un espace. Et puis c'est le cas aussi même des cartes marines, qui sont des cartes de navigateurs, dont on ne sait pas exactement comment elles étaient utilisées sur les navires. Elles étaient sur les navires, mais qui étaient surtout utilisées, enfin celles qu'on a conservées, dans des archives qui permettaient de se faire une idée justement de l'état du commerce et de l'état du monde.
Ces cartes marines sont des cartes qui datent de quelle époque au milieu du Moyen-Âge? Parce que je crois qu'on n'en a pas conservé des plus anciennes, mais elles datent plutôt du 12e ou du 13e siècle, ces cartes marines en
Alors,
particulier.
On pense qu'elles ont été créées à partir du 12e siècle, mais la plus ancienne conservée date probablement de la fin du 13e siècle. C'est la fameuse carte Pisane qui est conservée à la Bibliothèque nationale de France, qui en est très fière. Et c'est le plus ancien document de ce type-là qui est conservé, et elles ont été reproduites, copiées, améliorées jusqu'au XVIIIe siècle. Donc c'est vraiment un genre de carte créée au Moyen-Âge, mais qui a une postérité très importante à l'époque moderne.
Et qui nécessite de nouvelles découvertes scientifiques, de nouvelles approches, parce qu'effectivement, il faut, pour faire ces cartes marines, rompre avec des cartographies terrestres, par exemple.
Alors, le point intéressant qui a été considéré comme la modernité de ces cartes, c'est que pour la première fois en Occident, elles utilisent un rapport d'échelle et d'orientation avec l'espace réel. Disons que lorsqu'on regarde une map monde médiévale, par exemple une map monde circulaire qui situe les toponymes, il n'y a pas de rapport d'échelle, de distance à la réalité. Tandis que les cartes marines sont des relevés, sont faites à partir de relevés à la boussole sur le terrain, et qui donc reproduisent la forme des contours des côtes et qui ont un rapport de distance exacte, hein, d'échelle de distance entre ce qui est représenté et la représentation. Donc c'est ça la grande nouveauté de ce système.
Jean-Charles Dussen, d'ailleurs, j'ai cru comprendre en vous lisant que certains géographes arabes faisaient un peu la même chose, comme Ibn Awqal, je ne sais pas si je prononce bien, qui est lui un géographe et cartographe du Xe siècle, qui trace les côtes de la Méditerranée musulmane d'une certaine façon, sans s'intéresser véritablement à l'intérieur des terres. On dessine le trait de côte, on dessine les ports, on dessine les endroits où on peut mouiller en tant que marin, mais on ne va pas beaucoup plus loin à l'intérieur des terres. Est-ce que c'est cela, Jean-Charles Dussen?
En fait, c'est à peu près ça, si ce n'est qu'Ibn Awqal participe à une école géographique particulière qu'on appelle l'école de l'Atlas de l'Islam, ou bien l'école iranienne, car elle apparaît de manière un peu subite au Xe siècle, manifestement à partir de savants iraniens. Et il s'avère que Ibn Awqal et son prédécesseur Al-Istarri et Al-Muqaddasi, son successeur, vont développer un atlas de 22 cartes consacrées uniquement au monde musulman, avec plusieurs cartes consacrées au Maghreb et à la Méditerranée. Mm-hmm. Mais ces cartes sont toujours accompagnées de textes. Mm-hmm. Et l'auteur explique bien, notamment Ibn Awqal, qu'un texte ne peut pas forcément tout dire et qu'il doit être accompagné par une sorte de visualisation, c'est-à-dire la carte. Et d'ailleurs, sur la carte, il va apporter des informations, des positionnements relatifs d'une ville par rapport à une autre, des dessins de port, si on veut, ou de baie plutôt, pour en fait montrer des choses que le texte ne pouvait pas expliquer, si ce n'est en développant beaucoup plus de détails. Mais néanmoins, il accorde une importance certaine à l'intérieur des terres. Il faudra attendre l'apparition d'une cartographie nautique dans le monde musulman, mais qui est plus tardive par rapport au monde latin, pour que ce ne soit que les côtes qui soient prises en compte en prenant le positionnement des amers, par exemple, ou bien des accidents côtiers. Chez Ibn Awqal et chez les auteurs du Xe siècle, c'est surtout la terre qui intéresse, et la mer est quasi inconnue, bien que nous sachions que ces auteurs, parfois, prenaient le bateau également. Mm-hmm.
Yeah. science n'a nul ennemi de Johannes Matthäus de Sancto, un morceau du XIVe siècle par l'ensemble Grain de la Voix. Jean-Charles Dussen, on a évoqué les premiers siècles de l'islam. Il faudrait peut-être dire un grand nom, peut-être le nom le plus connu de cette géographie, cartographie donc musulmane de cette époque médiévale, c'est-à-dire le nom d'Al-Idrissi, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, qui est un personnage très intéressant, parce que c'est un personnage qui, d'une certaine façon, fait le pont entre deux mondes. Il est géographe arabe, mais on ne sait pas très bien où il est né. Mais en tout cas, Al-Idrissi est un personnage qui va travailler, va mettre son savoir et sa connaissance au service de rois chrétiens, en particulier du côté de la Sicile du XIIe siècle. Pourquoi Al-Idrissi est-il un personnage important, intéressant, quand on s'intéresse à la cartographie médiévale?
Oui, effectivement, Al-Idrissi est un auteur hors norme, si on veut. Cela est dû sans doute au fait qu'il a travaillé dans une Sicile qui était alors le centre culturel de la Méditerranée et à cheval entre deux mondes. Et d'autant plus que l'on ne connaît quasiment rien de la biographie d'Al-Idrissi. On ne sait pas où exactement, ni quand exactement il est né, ni où, ni quand il a disparu. Il nous a laissé plusieurs ouvrages, deux de géographie et un de botanique. Et effectivement, c'est le livre de Roger qui l'a rendu célèbre, livre de Roger, du nom de Roger II de Sicile, qui a été le commanditaire de cet atlas composé de près de 70 cartes régionales et d'une map-monde circulaire censée recouvrir l'ensemble de l'Écumène. Donc on a vraiment là une géographie qui se veut universelle, avec comme point de départ la carte d'Al-Khwarizmi pour les régions les plus lointaines, mais Al-Idrissi, en Sicile, aura l'occasion, pour la première fois chez un auteur arabe, de réunir énormément d'informations grâce à la chancellerie de Palerme, grâce aux marchands qu'il pouvait rencontrer à Palerme, réunir énormément d'informations sur l'Europe occidentale, qui était restée jusque-là relativement peu connue, si ce n'est avec des informations concernant surtout les territoires méditerranéens. Et donc, chez Al-Idrissi, à l'aide de ces informations, il a pu dessiner ou redessiner, si on veut, les côtes septentrionales de l'Europe. Et c'est ainsi que, pour la première fois, on a des cartes, certes rudimentaires, mais des cartes tout de même de la Scandinavie, avec la Norvège, la Suède et le Danemark qui sont relativement bien dessinés. Et de même, inversement, pour l'archipel des Sondes, donc si vous voulez, l'Indonésie actuelle, on a pour la première fois une représentation qui se veut, je ne dirais pas mimétique, mais qui se veut le reflet des connaissances engrangées par les voyageurs qui pouvaient circuler en Méditerranée.
Ouais, Victor Mercier de l'Épinay.
Oui, sur Al-Idrissi, on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas exactement comment Roger II a commandé cette carte, ou plus exactement comment est-ce qu'il a mis à disposition d'Al-Idrissi des hommes, des équipes d'observateurs. On a prétendu pendant longtemps qu'il avait envoyé partout des équipes de deux, un dessinateur et un scribe, mais en fait ça, on ne sait pas si c'est vrai. Plus vraisemblablement, il semble qu'Al-Idrissi avait beaucoup d'informateurs, de voyageurs qui lui racontaient les choses. Et la toponymie dans la carte d'Al-Idrissi est très importante, puisqu'elle permet de savoir qui étaient ces informateurs. Par déduction phonétique, on voit comment un nom est transcrit. On se dit, tiens, si quelqu'un lui a dit le nom de cette façon, c'est qu'il avait tel accent ou qu'il parlait telle langue, Jean-Charles Dussen.
Tout à fait. Sur la carte, on a plus de 2500 toponymes et dans le texte, plus de 5000 toponymes. L'analyse des étymons de ces toponymes permet de voir quelle était la langue que parlait l'interlocuteur de notre auteur. Par exemple, la Grande-Bretagne est dénommée Inglitira, Angleterre, si vous voulez. Ce qui nous montre que son informateur était quelqu'un qui parlait une langue romane. Sinon, England, comme toponyme, existait déjà, et ce toponyme aurait pu être utilisé. Et lorsque l'on a des noms de lieux qui sont ainsi, qui existent dans plusieurs langues, on peut déterminer quel a été son informateur par rapport à cet élément-là. Par exemple, le Danube, qui peut être appelé en arabe Danuba ou Danau, selon un étymon latin, si on veut, ou un étymon slave. Lorsqu'il apparaît, le Danube, sous la forme Danuba chez Idrissi, on peut être certain que son informateur était un voyageur ou un commerçant, disons, romans. Nous sommes là au XIIe siècle, donc les langues romanes sont bien déterminées déjà, et n'a pas été, pour le coup, un informateur grec ou bien hongrois, par exemple. Car pour les territoires balkaniques, et voire de la Grèce, on peut également déterminer si l'informateur a été hongrois ou bien grec pour ces toponymes qui existent dans différentes langues.
Mais alors ça peut aller très loin, ces déductions. Je vous cite dans un article que vous consacrez à la France dans les ouvrages d'Ali Drissi. Vous dites, pour l'Espagne, on a pu identifier comme informateur un navigateur galicien ou portugais, un musulman de la zone frontière christiano-chrétienne des alentours de Coimbra, un castillan qui connaissait le codex de Calixtinus, un gascon originaire de Bayonne et un muletier du centre de l'Espagne. Comment est-ce qu'on arrive à savoir toutes ces choses-là?
Eh bien, c'est relativement simple. Il suffit de suivre les itinéraires du texte d'Ali Drissi avec une carte contemporaine. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des densités différentes de toponymes à certains endroits, que le territoire n'est pas couvert de manière uniforme, si vous voulez. Et donc, en voyant ces territoires mieux représentés, on peut s'attendre à ce qu'il y ait eu un ou deux informateurs originaires de ces endroits, qui connaissaient mieux ces endroits. Et pour le codex Calixtinus, quand on voit que les itinéraires qu'il donne... Donc, je rappelle que le codex Calixtinus donne les routes qui allaient vers Saint-Jacques de Compostelle à partir du centre de la France actuelle. Et donc, quand on voit qu'il donne les toponymes du nord de l'Espagne dans des itinéraires qui sont identiques à ceux du codex Calixtinus et sous des formes galiciennes, on peut s'attendre à ce que son informateur ait été galicien. Mmh. C'est un jeu fascinant et relativement, je dirais, aisé quand on a trouver le bon bout de la pelote à tirer.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, ça nous pose des questions sur la façon dont on envisage le territoire ou le paysage, d'une certaine façon. Est-ce qu'on l'envisage selon des itinéraires, avec un point A conduisant à un point B, ou est-ce qu'on l'envisage comme dans sa plénitude, avec non seulement des itinéraires et des routes, de chemins, d'une certaine façon, des chemins, Emmanuel Vagnon, mais également avec tout ce qu'il y a autour de ces routes et des chemins, ces représentations, pourrait-on dire, paysage tel qu'on le connaît aujourd'hui dans les cartographies contemporaines, Emmanuel Vagnon?
C'est une grande question. Et ça dépend beaucoup du type de carte qu'on envisage, évidemment. Là, je parlais tout à l'heure des cartes marines, elles vont se consacrer qu'au littoral, en égrénant les noms des toponymes les plus connus. Mais on a des cartes aussi d'itinéraires, mais depuis l'Antiquité, la fameuse table de Peutinger, qui a été copiée en fait au Moyen-Âge, est une série d'itinéraires romains sur les voies romaines qui existaient à la fin de l'Antiquité. On a au Moyen-Âge des itinéraires, on a des itinéraires décrits, par exemple les récits de pèlerinage souvent sont des itinéraires qui énumèrent les stations des pèlerins jusqu'à leur point d'arrivée, et des cartes qui parfois résument l'espace sous forme d'itinéraire. Mais voilà, ça dépend du type de carte qu'on utilise et il y a une grande diversité finalement de ces objets.
Prenons un exemple, celui de la Terre Sainte, puisque itinéraire veut dire aussi itinéraire depuis l'Europe occidentale jusqu'à Jérusalem, et il y a beaucoup de pèlerins qui font ce chemin, pas simplement pendant les croisades. Et donc ce chemin, effectivement, est-il connu sous forme d'itinéraire ou sur forme de connaissances cartographiées beaucoup plus vastes et beaucoup plus larges? Et peut-être même, comme le disait tout à l'heure Victor Massé de l'Épinay, peut-on faire coïncider la connaissance que l'on a topographique de la Terre Sainte, beaucoup plus vaste que celle que l'on connaît aujourd'hui, puisqu'elle va jusqu'à l'Égypte, et d'autres endroits beaucoup plus loin du Moyen-Orient et du Proche-Orient, avec ce que l'on va faire et ce que l'on voit quand on se promène?
Les cartes de Terre Sainte sont finalement forment un corpus assez cohérent, puisque ce sont finalement les cartes les plus courantes qu'on rencontre au Moyen-Âge. Et elles sont de différents types. Il existe en effet au XIIIe siècle une carte itinéraire réalisée par Matthew Paris, un Anglais, qui...
Grand chroniqueur par ailleurs.
Grand chroniqueur, exactement, qui illustre sa chronique d'un itinéraire figuré qui résume les étapes pour aller en Terre Sainte depuis Saint-Alban jusqu'à la Terre Sainte. Les cartes les plus fréquentes qu'on trouve au Moyen-Âge sont des cartes bibliques. Qui
tente de faire coïncider le récit biblique avec...
Alors, c'est plus compliqué que ça. En fait, ce sont des cartes de Terre Sainte qui résument les endroits qu'il est opportun de visiter lorsqu'on est pèlerin. Donc, ce sont des cartes qui servent à situer les lieux de la Bible. de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et des Actes des Apôtres, qui situe ces lieux dans un espace assez structuré, non pas sous forme d'itinéraire, mais au contraire sous forme de surface, et même à partir du XIVe siècle, une surface quadrillée qui permet de repérer les lieux décrits dans la Bible sous forme de coordonnées, non pas en latitude et longitude, mais horizontales et verticales.
C'est Pietro Visconti, c'est ça, le cartographe génois qui met ça en place?
En effet, l'une des plus anciennes cartes quadrillées de Terre Sainte est utilisée par Pietro Visconti dans un projet de croisade réalisé dans les environs de 1320-1330 pour un Vénitien, Marino Sanudo, qui propose au pape un projet de croisade très structuré.
Et c'est Jérusalem le point zéro dans ces cartes-là?
Alors, curieusement, non. Jérusalem, qui est très souvent, mais pas toujours, au centre des mappements médiévales circulaires, pour des raisons, pour le coup, théologiques, se retrouve pas du tout au centre sur les cartes de Terre Sainte, hein, qui sont orientées vers l'Est et qui montrent finalement la Terre Sainte vue de la Méditerranée.
Alors, si on travaille pas avec les latitudes et les longitudes, mais qu'on quadrille, il faut bien quand même avoir des références. On quadrille à partir d'un endroit. Comment est-ce qu'on a mis en place ces quadrillages?
Alors, le quadrillage part de la côte, justement. Le repère, c'est la côte du Levant, de la Méditerranée, en allant vers l'Est, avec pour horizon Bagdad, la Mésopotamie.
Hein. Alors, Jean-Charles Dussen, si pour un pèlerin médiéval, Jérusalem est un lieu d'aboutissement, mais aussi un lieu merveilleux, cette Terre Sainte est à la fois une réalité, mais aussi un rêve de chrétiens et de croyants. Il en est de même, j'ai cru comprendre, pour des géographes ou cartographes médiévaux arabes, pour une ville qu'ils ne connaissent pas, mais dont ils ont entendu parler. Vous citez la description merveilleuse de Rome, par exemple, dans beaucoup de ces géographies ou cartographies arabes. On décrit Rome comme une ville merveilleuse avec des qualités qui sont tout à fait exceptionnelles et qui tiennent à son ancien statut de capitale de l'Empire romain.
Les choses sont un petit peu plus littéraires dans ce cas-ci, car dans la géographie arabe, on a l'apparition relativement tôt des merveilles du monde, c'est-à-dire de ces endroits peu connus ou de ces éléments naturels, de ces accidents naturels ou de ces animaux étonnants et qui ravissent parce qu'ils sortent de l'ordre naturel des choses. Et la ville de Rome, contrairement à Byzance qui était mieux connue, la ville de Rome, capitale de l'Italie si vous voulez, a acquis très tôt ce statut de ville mirifique aux bâtiments hors normes dans leur dimension, si ce n'est que les toutes premières descriptions que l'on a et qui datent du début du 8e siècle et qui sont dues à un marin qui a échoué manifestement à Ostie, qui a pu remonter le Tibre et être accueilli à Rome, si ce n'est que cette première description nous parle de manière convenable de la basilique Saint-Pierre, manifestement du château Saint-Ange, du futur château Saint-Ange, et de la basilique de Saint-Paul hors des murs. Mais par la suite, on a des textes qui vont nous donner des descriptions avec des chiffres hyperboliques du nombre de commerces, de rues, d'églises, de chapelles qui sont censées se situer à Rome, et on voit qu'il y a un élément supplémentaire qui va apparaître au courant du Xe siècle sans qu'on en connaisse l'origine, c'est que Rome serait située au milieu d'un labyrinthe hélicoïdal qui fait qu'on ne peut en sortir qu'avec énormément de difficultés de cette ville de Rome.
Alors en revanche, s'ils connaissent moins bien Rome ou s'ils l'envisagent comme un lieu merveilleux et mirifique, comme vous venez de le dire, Jean-Charles Dussen, ils connaissent très bien l'Italie du Sud et vous avez fait un article en particulier sur la connaissance qu'a il Idrissi, il travaille, on l'a dit, pour Roger II de Sicile, du réseau routier qui n'est pas un réseau routier hérité d'une certaine façon, mais qui est vraiment un réseau routier contemporain d'Idrissi, c'est-à-dire du XIIe siècle, qu'il a pu dresser pour Roger de Sicile à partir des informateurs qu'il avait lorsqu'il était à son service.
Oui, pour ce qui est de le territoire de l'Italie actuelle, on se rend compte que le sud est beaucoup mieux décrit et parfois, notamment la Calabre et certaines parties des Pouilles, décrit quasi avec une un luxe de détails qui laisse entendre que l'auteur lui-même a pu voyager dans ces territoires. Mais rappelons tout de même que le sud de l'Italie est un territoire normand à l'époque où Al-Idrissi écrit. Et une des hypothèses serait également qu'Al-Idrissi a pu voir le jour en Calabre, n'est-ce pas ? Donc qu'il ait une connaissance précise de ces territoires comme il en a de la Sicile découle peut-être du fait qu'il a pu y passer quelques années ou bien qu'il a pu par la suite y voyager. Mais effectivement, on se rend compte qu'il peut, de manière très réaliste et ceci de manière systématique, égrener les routes qui partent des principales métropoles et qu'il va égrener ces routes de manière à les faire rayonner de manière systématique autour de chacune de ces localités, soit vers le nord, soit quand on est en Calabre vers les Pouilles et inversement, de même qu'il va détailler les destinations que l'on peut atteindre à partir des principaux port côtier de la côte sud, de la Calabre et des Pouilles.
Victor Massel-Lépiné.
Oui, je voudrais revenir un peu sur la présence du merveilleux dans ces cartes, puisque c'est quelque chose auquel on pense beaucoup aussi quand on pense aux cartes médiévales, la présence des monstres marins, la présence de toutes ces créatures extraordinaires, ou bien de territoires qui n'existent pas dans la carte d'Al-Khwarizmi dont on a parlé tout à l'heure, Jean-Charles Dussen. Vous évoquez les îles des Amazones qu'il fait figurer dans la Baltique et qui n'étaient pas dans la géographie de Ptolémée, donc il l'a rajouté. Comment est-ce que ça s'articule, cette volonté scientifique tout de même de tous ces géographes, de tous ces cartographes, avec cette présence du merveilleux? Pourquoi est-ce que on peuple le monde de choses inconnues et de choses effrayantes ou merveilleuses?
Jean-Charles Dussen et puis très rapidement Emmanuel Vagnon. Jean-Charles Dussen.
Eh bien, sur les cartes arabo-musulmanes, il y a relativement peu de merveilles. Il n'y a pas de monstres marins, par exemple. En revanche, il y a des merveilles qui apparaissent dès Al-Khwarizmi qui seront par la suite recopiées, peut-être de manière systématique. On en a 3 ou 4. On a, par exemple, une statue qui serait située à Cadix, donc près de Gibraltar, et qui interdirait ou qui avertirait les navigateurs trop aventureux de ne pas aller dans l'Atlantique actuel de peur de ne pas en revenir. Effectivement, au nord du monde, en mer Baltique, on a ces îles des Amazones, et par la suite, ces îles seront systématiquement recopiées. On a des textes qui vont nous en parler en nous expliquant qu'une fois par an, les Amazones hommes doivent rejoindre leurs compagnes, se passe ce qui doit se passer, et un mois plus tard, les hommes retournent dans leur île. Et s'il y a des enfants mâles qui naissent de ces unions, les petits garçons doivent retourner avec les papas, tandis que les petites filles peuvent rester avec leur maman. On voit que ces textes vont venir compléter cette image sans que l'on puisse trouver une origine à ce mythe. De même, en Extrême-Orient, on a également l'apparition de Al-Khwarizmi, et cela sera répété par la suite, si vous voulez, dans le Pacifique actuel, d'îles qui seraient des îles recouvertes par des gisements de diamants ou de pierres précieuses, sans que l'on sache exactement d'où vient cet imaginaire. Mais remarquez que ces merveilles sont généralement mises aux limites du monde et vraiment dans les régions périphériques les moins connues et les plus susceptibles de recevoir ces choses qui sortent de l'ordinaire.
Emmanuel Vagnon, c'est la même chose pour le royaume du prêtre Jean, par exemple, ou pour des royaumes lointains, ou alors des personnages comme les Antipodes, par exemple.
Alors, c'est le même phénomène, effectivement, dans la cartographie occidentale. Il faut comprendre que les merveilles font partie de la création. Donc, il y a aussi une attitude contemplative face à l'image du monde. Et les merveilles font partie des choses que les hommes n'arrivent pas à appréhender, mais peuvent découvrir. Et parmi ces merveilles, il y a des merveilles qui sont complètement extraordinaires et imaginaires, mais il y en a aussi qui sont réelles et qui émerveillent tout autant. La largeur des fleuves, la hauteur des montagnes suscitent aussi cet émerveillement. Alors, je précise aussi qu'il n'y a pas beaucoup de monstres marins sur les cartes médiévales et qu'au contraire, c'est une mode cartographique à partir du XVIe siècle. On adore mettre des monstres marins sur les cartes, mais au Moyen-Âge, il y en a très peu, à part peut-être une sirène sur l'Atlas catalan. Voilà. Alors, quant au prêtre Jean, il ne s'agit pas d'une merveille, il s'agit d'un mythe qui s'est construit à partir du XIIe siècle, à partir de l'époque des croisades, et qui fait référence à des événements réels. Il s'agit donc tout d'abord donc au XIIIe siècle donc de l'irruption des Mongols à la marge du monde connu et aussi de l'espoir qu'on va trouver un allié.
Une alliance de revers.
Une alliance de revers contre l'espace musulman. Donc les chrétiens ont d'abord été horrifiés par les invasions mongoles, mais ensuite ont cherché à nouer des rapports diplomatiques avec les Mongols. Alors le prêtre Jean, l'idée du prêtre Jean s'est construite, hein, le mythe, s'est construit sur ces rapports diplomatiques compliqués. Et on a d'abord situé le prêtre Jean en Orient, il s'agirait finalement d'un roi, bon, qui a le titre de prêtre, comme il pourrait avoir le titre d'évêque, voilà, ou de pape, on va dire, et qui est censé gouverner sur des peuples chrétiens à l'Orient, et donc serait un allié potentiel. Il est d'une richesse fabuleuse. Et puis ce mythe s'est déplacé dans la cartographie et dans l'imaginaire géographique médiéval de l'espace asiatique à l'Éthiopie. Et il a finalement été identifié au XVe siècle avec le Négus, c'est-à-dire le roi d'Éthiopie, chrétien en effet, qui gouvernait donc au sud de l'Égypte.
Et donc c'est celui qu'on va ensuite tenter de retrouver à chaque fois lorsqu'il y a des voyages. On tente de savoir si on peut rejoindre le royaume du prêtre Jean. Si on avance, puisque nous arrivons bientôt au terme de notre émission, Emmanuel Vagnon et Jean-Charles Dussène, si on avance vers la fin de ce qu'on considère traditionnellement comme le Moyen-Âge, c'est-à-dire le 14e, 15e siècle, vous nous avez dit qu'il y a une large redécouverte des écrits de Ptolémée à ce moment-là. Il y a aussi beaucoup de mouvements avec des géographes qui quittent par exemple Constantinople avant la chute de Constantinople au milieu du 15e siècle et qui apportent des connaissances que peut-être on n'avait pas auparavant en Occident médiéval. Il y a des bouleversements de la cartographie dans cette fin de Moyen-Âge à ce moment-là, 14e, 15e siècle.
Alors en Occident, oui, la traduction de la géographie de Ptolémée est un événement majeur parce qu'elle permet de structurer les connaissances géographiques qu'on avait déjà accumulées pendant des siècles dans un système mathématique cohérent, en latitude et en longitude. Les voilà. On utilisait déjà des coordonnées géographiques pour des raisons astronomiques au Moyen-Âge en Occident, mais les utiliser pour faire une carte du monde, voilà une nouveauté au XVe siècle, une nouveauté qui va vraiment être développée au fur et à mesure que les connaissances géographiques progressent avec ce qu'on appelle les grandes découvertes.
Et dans le monde arabo-musulman, en revanche, Jean-Charles Dussène, après Ali Drissi, dont on a parlé au XIIe siècle, les savoirs géographiques et cartographiques connaissent une phase un peu d'arrêt, s'ankylose. Est-ce qu'on sait pourquoi ?
En fait, dans la littérature, on se rend compte qu'ils deviennent des auteurs répétitifs. Et il y a manifestement un manque de curiosité, car les auteurs utilisent les connaissances géographiques comme si c'était des connaissances qu'on peut répéter sans mettre à jour. Si ce n'est que, dans certaines chancelleries, notamment au Caire, à partir de 1250, il y a une volonté d'avoir des connaissances à jour par rapport aux interlocuteurs européens, d'autant plus que les relations s'étant développées entre l'Europe et le Caire ou le Levant, ils savent qu'ils peuvent interroger des commerçants ou bien des missionnaires, par exemple. Et donc, on a une géographie littéraire qui se développe de manière plus pointue à l'intérieur des chancelleries, alors que les ouvrages généraux de vulgarisation, entre guillemets, répètent des connaissances anciennes et, dans certains cas, tout à fait anachroniques et dépassées. En revanche, à la toute fin du Moyen-Âge, on se rend compte que dans l'espace mongol, autour de Tabriz, si vous voulez, dans le 15e siècle, on a l'émergence d'une géographie mathématique, certes issue des travaux de Ptolémée passés par Al-Khwarizmi, mais acclimatée aux réalités iranienne, si ce n'est que ici aussi, il n'y a pas de prise en compte, par exemple, du problème de la projection, de sorte que ces cartes restent relativement rudimentaires, bien qu'elles soient limitées aux régions iraniennes.
Victor Massé-de-l'Épine. Emmanuel Vagnon, en deux mots, est-ce que c'est vers la fin du Moyen-Âge aussi qu'il y a une harmonisation des codes cartographiques? Je me demandais, est-ce que le fait d'orienter systématiquement avec le nord en haut, certains codes typographiques ou certains codes de couleurs, est-ce que la circulation de ces cartes fait qu'à un moment il y a un besoin d'harmoniser, que tout le monde travaille de la même façon?
Alors, il y a une harmonisation dans le sens où, en effet, le système ptoléméen devient la référence, y compris pour les cartes marines, qui s'inscrivent finalement dans le canevas ptoléméen et sont facilement orientées vers le nord. Pendant le Moyen-Âge occidental, c'est vrai que la plupart des maps-mondes sont orientées vers l'est, mais pas de manière systématique. Et certains codes, conventions, qui ne sont jamais écrites, enfin qui sont écrites, si, mais plutôt à la fin du Moyen-Âge, certaines conventions sont utilisées. Par exemple, pour les cartes marines, on dessine les bancs de sable avec des petits points rouges, les écueils avec des croix, les toponymes sont en noir ou en rouge selon leur importance. Ces conventions-là s'installent, elles sont déjà présentes au XIIIe siècle et elles sont expliquées, en fait, théorisées au XVe siècle. Et pour ce qui est de l'orientation vers le nord, il faut comprendre que même aujourd'hui, c'est pas systématique. Hein. On sait qu'une carte doit être orientée vers le nord, on vous l'apprend à l'école, mais si vous avez besoin de l'orienter autrement, je veux dire, il suffit de mettre une petite rose des vents qui l'explique. C'est pareil pour les cartes marines jusqu'au XVIIIe siècle, hein, et puis après aussi.
Merci à vous, Emmanuel Vagnon, et merci également à Jean-Charles Dussène et à ceux qui l'ont accueilli, le bureau de Radio France à Bruxelles, dans leur studio. Si on veut en savoir plus, eh bien, on peut lire, entre autres, le très beau catalogue de l'exposition que vous aviez coordonné, ce catalogue, avec d'autres, l'âge d'or des cartes marines, c'était au Seuil, Bibliothèque Nationale de France. Dans l'atelier du médiéviste, un gros ouvrage, donc publié chez Brepols, La Terre, connaissance, représentation, mesure au Moyen-Âge. Et puis, votre travail à vous-même, donc Emmanuel Vagnon, géographie, représentation de l'Orient méditerranéen en Occident, c'est également chez Brepols. Et pour vous, Jean-Charles Dussène, où peut-on vous lire ?
Mais ce sont tout d'abord des ouvrages plutôt savants édités chez Peters, ou bien un récit de voyage concernant Abu Hamid al-Rarnati, qui a voyagé en Europe et en Asie au XIIe siècle, et c'est publié chez l'Harmattan.
Merci beaucoup, et on vous lira avec plaisir, donc, et on mettra toutes ces coordonnées sur le site de France Culture. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marcet. À la technique avec nous aujourd'hui, Tristan Gratalon, et à la réalisation, Anne Fleury. Demain, nous terminerons cette série de rediffusions d'émissions de la Fabrique de l'Histoire autour du Moyen-Âge en nous intéressant aux dernières recherches sur un des aspects les plus connus de l'époque médiévale, du moins c'est ce qu'on croit, l'amour courtois. Si vous voulez nous écouter sur le site internet de France Culture, n'hésitez pas à aller à l'adresse www.franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC.